Frères et sœurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire l'expérience de l'amertume d'un pardon qui ne peut pas aboutir? Vous savez, il y a quelqu'un qui nous a offensé, quelqu'un qui nous a fait du mal, une vraie injustice, hein, il a médit ou calomnié dans notre dos, bien c'est notre travail, il nous a évincé par ses intrigues au bureau d'une place légitime, et encore d'autres choses. On serait prêt à pardonner? On serait prêt à donner un avenir à la relation avec cette personne, mais en face, rien. Rien. Nous serions disposés à aller au-delà de l'offense, mais la personne en face ne demande rien, ne reconnaît rien. Alors, dans notre cœur se déploie un sentiment de gâchis, une colère sourde qui distille son poison et son amertume. On était prêt à accorder un pardon, mais il n'y a rien en face qui se soit produit, ni demande, ni reconnaissance d'une responsabilité. Eh bien, si vous avez fait cette expérience désagréable, l'épisode du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain est alors très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Jésus entre dans la démarche que Jean-Baptiste propose. Il vient au Jourdain pour être plongé dans les eaux par son cousin. Alors, il est peut-être important de rappeler que ce qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste, là je m'adresse aux enfants du catéchisme en particulier, ce qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste, c'est pas le sacrement de baptême que l'on reçoit. Jésus n'a pas été baptisé comme vous avez été baptisé, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. C'était le baptême, hein, ça veut dire littéralement plonger dans l'eau. Et donc, Jean-Baptiste invitait les gens à venir à lui. Ils étaient devant lui, ils confessaient leurs péchés, et Jean-Baptiste les plongeait dans l'eau. Il y avait cette idée, d'une certaine manière, que le péché, c'est ce qui nous fait mourir, et on a besoin d'être libérés de ce qui fait nous mourir. Le péché, c'est ce qui nous empêche de vivre l'alliance avec Dieu, c'est ce qui nous maintient hors de la terre promise avec Dieu. On était plongés dans les eaux, en implorant la miséricorde de Dieu, dans l'espérance que viendrait celui qui aurait le pouvoir de pardonner les péchés. Et puis on sortait de l'eau et on pouvait entrer en terre promise, on allait sur la terre promise. Voilà le signe que Jean-Baptiste proposait. Il y avait toute une foule de gens qui venaient les uns après les autres, donc dire devant Jean-Baptiste et à travers lui devant le Seigneur le mal qu'ils avaient commis et pour lequel ils demandaient le pardon de Dieu. Et voilà que Jésus se présente à Jean-Baptiste comme un pécheur, quelqu'un qui fait le mal au milieu de la foule des pécheurs. Vous imaginez la tête de Jean-Baptiste, il y a quelque chose d'effarant, il y a quelque chose de tout à fait anormal. Comment l'innocent se présente comme un pécheur? Parce que Jésus est vraiment celui qui est innocent. Jésus est celui qui n'a commis aucun péché. Saint Paul insiste dessus, hein, il est celui qui n'avait pas connu le péché. On dit dans la liturgie, il a vécu notre condition d'homme en toute chose excepté le péché. Saint Pierre dira, lui qui n'a pas commis de faute, il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Et donc Jésus se présente comme tous ceux qui doivent confesser un péché personnel. Comment comprendre ça? Alors, une autre parole de Jean-Baptiste pour désigner Jésus, et qu'on reprend dans la liturgie plus tard, on va dire que Jésus est l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève le péché du monde. Jésus, celui qui enlève le péché du monde. Alors, il y a deux choses là. Il y a une première chose, on en a l'habitude, on a l'habitude de l'entendre. On voit le secours que Jésus vient donner à l'homme qui a fait le mal. J'avais fait le mal, je suis prisonnier de mon péché, et Jésus va enlever le péché, donc le pécheur pardonné va pouvoir devenir juste, être justifié. Voilà le secours que Jésus donne à celui qui a commis le mal. Mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui, il y a un deuxième secours dont on est moins familier. Il y a un secours que Jésus donne à celui qui a été offensé. Il y a un secours que Jésus donne à celui qui a été offensé. Je voudrais insister là-dessus aujourd'hui. Comment cela? Ben oui, il y a vraiment un drame de l'offensé qui ne peut pas vivre le pardon. Personne en face ne reconnaît sa faute, personne ne demande pardon. Il aspirait à pouvoir accorder un pardon, et il n'y a personne. Et donc il est maintenu dans une espèce de colère, fût-elle sourde. Il n'y a pas d'interlocuteur pour lui pour vivre la réconciliation, parce que l'offenseur n'y est pas prêt. Et du coup, celui qui a été offensé éprouve une double injustice. Première injustice, l'offense dont il est la victime n'a jamais été reconnue. L'événement qui a blessé sa vie n'est pas identifié, n'est pas attesté. Parfois, on se demande si on n'est pas fou, si on ne prend pas les choses trop à cœur, alors que il y a pu avoir des événements qui sont vraiment graves, objectivement. Première injustice, l'offense n'est pas reconnue. Deuxième injustice, personne ne lui demande pardon. Et du coup, sa disposition à pardonner semble se perdre dans le vide. Or voilà ce que Jésus accomplit. Jésus, en venant se charger du péché qui n'était pas le sien personnel, mais qu'il prend, qu'il porte effectivement, Jésus, en faisant cela, reconnaît la réalité de l'offense. Et le fait qu'il se charge du péché implique qu'il y avait bien un poids à prendre. S'il n'y avait pas de poids, il se chargerait de rien du tout. Donc le fait qu'il vienne prendre, porter le péché du monde signifie, oui, il y avait bien une offense qui est identifiée, une offense qui est reconnue, une offense dont le poids, parfois intolérable, peut être mis en lumière. Et en s'en chargeant, il vient l'enlever. Et s'il l'enlève, ça veut dire, et ça c'est très étonnant, que Jésus demande pardon à ce moment-là pour accomplir toute justice. C'est un élément très étonnant du serviteur de Dieu, de Jésus, qui dira d'ailleurs sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Jésus vient demander pardon dans ce geste pour ceux qui ne demandent pas pardon. À nous qui sommes parfois donc sans interlocuteur de bonne volonté et à qui notre pardon semble tomber dans le vide, nous avons en fait le Christ comme interlocuteur qui vient à nous en disant « Je reconnais la malice de tel acte, la méchanceté de telle action, de telle parole. Je la vois dans toute sa profondeur et je te demande pardon. » Jésus le fait au nom des pécheurs, au nom de ceux qui sont encore pécheurs et qui ne demandent actuellement rien. Mais en faisant cela, il permet à celui qui avait été offensé, blessé, d'accomplir jusqu'au bout, en lui, la démarche de pardon. Dans le Christ, il y a réconciliation. Dans le Christ, il y a une réconciliation qui aboutit, qui me permet de dire, de vivre ce « je te pardonne », ce « c'était grave, mais je te pardonne ». En Christ, il y a une réconciliation qui réussit. Alors il reste un mystère. C'est de se dire, est-ce que celui qui était directement responsable arrivera à demander pardon? Et ça, de fait, c'est un mystère du cœur de l'homme. En tout cas, Dieu lui donne encore un peu de temps, un peu de temps pour prendre conscience, pour relire sa vie. Mais il permet, en venant à nous, le Seigneur Jésus nous permet déjà de mener au bout notre démarche de réconciliation. Celui qui était l'offenseur a encore un peu de temps, mais il faudra qu'il réponde de ses actes. Frères et sœurs, en ce jour, en cette fête du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain, puissions-nous contempler ce baptême du Christ pour faire aboutir nos démarches de réconciliation et échapper à la mère colère, échapper à la rancune, échapper à l'insatisfaction de ce pardon qui n'arrive pas à se donner, de cette réconciliation qui n'arrive pas à aboutir. Puissions-nous prendre au sérieux celui qui est venu porter et enlever le péché du monde, celui qui est venu apporter au monde la réconciliation par le don de sa vie, le Christ Jésus. Puissions-nous ainsi trouver le chemin de la paix en vivant par le Christ une réconciliation qui aboutit, une réconciliation qui déjà réussit. Amen.